Le Lombard était négociant en épices d'Orient en même temps que banquier. Aussi, les ragoûts où il plongeait les doigts avec élégance, les viandes qu'il détachait de l'os délicatement par petits morceaux, étaient imprégnées de senteurs exotiques, apéritives. Mais Marie ne montrait guère d'appétit et se servit à peine des plats du premier service. « Il est un lion, » lui dit alors Tholomeï en soulevant sa paupière gauche. « Il n'en peut bouger pour l'heure, mais il pense à vous et vous garde toute sa foi. »
« Serait-il en prison ?» demanda Marie.
« Non, pas précisément. Il est enfermé, mais nullement pour de pénibles raisons. Et il partage sa captivité avec de si hauts personnages que nous n'avons rien à craindre pour son salut. Tout m'incite à croire qu'il sortira de l'église où il se tient plus important qu'il n'y est entré.
« L'église ? Pourquoi dans une église ?»«
Je ne puis vous en dire davantage. » Marie n'insista pas. Guccio reclus dans une église en compagnie de gens si importants qu'on ne pouvait les lui nommer. Ce mystère la dépassait. Mais ce qui touchait Guccio était toujours empreint de mystère. La première fois qu'elle l'avait vu, n'arrivait-il pas d'une mission secrète auprès de la reine d'Angleterre? N'était-il pas revenu à Crécy pour cacher des documents, puis les reprendre? Et n'avait-il pas eu à courir par deux fois jusqu'à Naples pour le service de la reine Clémence? N'avait-il pas reçu de celle-ci le reliquaire de Saint-Jean qu'elle-même à présent portait au cou? Si Guccio était enfermé à cette heure, ce devait être encore pour la cause de quelques reines. Et Marie s'émerveillait que, parmi tant de si puissantes princesses, il continuât de la préférer, elle, pauvre demoiselle de campagne. Guccio vivait, Guccio l'aimait. Il lui suffisait de le savoir pour retrouver de l'agrément à exister. Et elle mordit au plat avec tout l'appétit d'une fille de 18 ans qui avait voyagé depuis l'aube. Tholomeï, s'il pouvait s'adresser avec aisance au plus haut baron, au père du royaume, aux légistes, aux archevêques, avait depuis longtemps perdu l'habitude de parler aux femmes, surtout à une femme si jeune. Ils échangèrent peu de propos. Le vieux banquier regardait avec ravissement cette nièce qui lui tombait du ciel et qui, d'instant en instant, lui plaisait davantage. « Quelle pitié, pensait-il, de l'aller mettre au couvent. Si Guccio ne s'était fait retenir dans le conclave, j'enverrais bien cette belle enfant à Lyon. Mais qui deviendrait-elle, seule et sans appui? Or, les cardinaux, à ce qu'on dit, ne se montrent pas prêts de céder. Ou bien la garder ici en attendant le retour de mon neveu. Voilà qui me sourirait. Mais non, je ne le puis. » J'ai demandé à Bouville d'agir en sa faveur. Quelle figure aurais-je maintenant à négliger la peine qu'il s'est donnée? Et s'il abaisse en plus ses cousines des Crécy et qu'il vienne à ses nigauds l'idée de lui demander nouvelles? Allons, que la tête ne me tourne pas, moi aussi. Elle ira au couvent. Mais pas pour toute la vie, dit-il en continuant à haute voix. Il n'est pas question de vous faire prendre le voile. « Acceptez sans trop de plaintes ces quelques mois parmi les nonnes. Je vous promets, quand votre enfant sera né, d'arranger vos affaires pour que vous viviez heureuse avec mon neveu. » Marie lui saisit la main et y posa ses lèvres. Il en fut gêné. La bonté n'était pas dans sa nature, et son métier l'avait peu habitué aux expressions de gratitude. « Il me faut maintenant vous remettre aux soins du comte de Beauville, » dit-il. « Je vais vous conduire à lui. » De la rue des Lombards au palais de la cité, la route n'était pas longue. Marie la parcourut aux côtés de Tholomeï dans un état de surprise émerveillée. Elle n'avait jamais vu de grande ville. Le mouvement de la foule sous le soleil de juillet, la beauté des maisons, le nombre et la profusion des boutiques, le scintillement des étalages, tout le spectacle la transportait dans une sorte de féerie.
Le bonheur, se disait-elle, que de vivre ici. Et quel homme aimable est l'oncle de Guccio, et quelle bénédiction qu'il veuille bien nous protéger. Oh oui, comme je subirais sans me plaindre le temps du couvent.
Ils passèrent le pont au change et entrèrent dans la galerie mercière encombrée de ses éventaires. Tholomeï ne put s'empêcher, pour le plaisir de s'entendre encore remercier, d'acheter une aumônière de ceinture brodée de petites perles qu'il offrit à Marie. C'est de la part des Guccio. Il faut bien que je le remplace. Ils s'engagèrent ensuite dans le grand escalier du palais. Ainsi, d'avoir fauté avec un jeune Lombard valait à Marie de Crécy de pénétrer dans la demeure des rois. Il régnait à l'intérieur du palais cette agitation, cet affairement réel ou simulé, qu'on remarquait en tout lieu où se trouvait le comte de Valois. Ayant franchi galeries et salles en enfilade, où se pressaient, se croisaient, s'interpellaient, chambellans, secrétaires, officiers et solliciteurs, Ptolémée et la jeune fille parvinrent dans une partie un peu retirée derrière la Sainte-Chapelle et qui donnait sur la Seine et l'île aux Juifs. Une garde de gentilshommes en cotte d'armes leur barra le passage. Nul ne pouvait pénétrer dans les appartements réservés à la reine Clémence sans l'autorisation des curateurs. Tandis qu'on allait chercher le comte de Bouville, Ptolémée et Marie attendirent dans l'embrasure d'une fenêtre. « C'est là, voyez-vous, qu'on a brûlé les Templiers, » dit Ptolémée en désignant l'île. Le gros Bouville arriva, toujours équipé en guerre, la bedaine roulant sous l'étoffe d'acier, et le pas décidé comme s'il allait commander un assaut. Il fit écarter la garde. Ptolémée et Marie traversèrent une première pièce où un vieillard desséché, vêtu d'une robe de soie et la peau tavelée comme un parchemin, dormait, assis dans une cathèdre. C'était le sénéchal de Joinville. Deux écuyers auprès de lui jouaient silencieusement aux échecs. Puis les visiteurs passèrent dans le logement du comte de Bouville. « Madame Clémence reprend-elle un peu ?» demanda Ptolémée à Bouville. « Elle pleure moins, » répondit le curateur. « Ou plutôt, elle montre moins ses pleurs, comme s'il lui coulait tout droit dans la gorge. Mais elle reste durement ébaubie. Et puis, la chaleur d'ici ne lui vaut rien dans son état, et elle a souvent des défaillances et des tournements de tête. » « Ainsi la reine de France est à côté, » pensait Marie avec une intense curiosité. « Peut-être vais-je lui être présentée. Oserais-je lui parler de Guccio ?» Elle assista ensuite à une longue conversation, à laquelle elle ne comprit que peu, entre le banquier et l'ancien grand chambellan. À certains noms prononcés, ils baissaient la voix, et Marie se défendait d'écouter leurs chuchotements. Le comte de Poitiers, arrivant de Lyon, était annoncé pour le lendemain. Bouville, qui avait souhaité si fort ce retour, ne savait plus maintenant s'il devait s'en féliciter. Car Monseigneur de Valois avait décidé de se porter immédiatement à la rencontre de Philippe en compagnie du comte de la Marche, et Bouville montra à Ptolémée, par une fenêtre qui donnait sur les cours, les préparatifs de ce départ. De son côté, le duc de Bourgogne, arrivé de Dijon, faisait monter la garde par ses propres gentilshommes autour de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre. Un mauvais vent de révolte soufflait sur la ville, et cette rivalité de régents pouvait aboutir aux pires calamités. De l'avis de Bouville, on aurait dû nommer la reine Clémence régente et l'entourer d'un conseil de la couronne composé de Valois, de Poitiers et d'Eudes de Bourgogne. Si intéressé qu'il fût par les événements, Ptolémée, à plusieurs reprises, tenta de ramener Bouville à l'objet précis de sa démarche.
« Certes, certes, nous allons bien veiller sur cette damoiselle, » répondait Bouville qui revenait aussitôt à ses inquiétudes politiques.
Ptolémée avait-il des nouvelles de Lyon ? Le chambellan avait pris familièrement le banquier par l'épaule et lui parlait presque joue à joue. Comment ? Guccio, muet en conclaviste, était enfermé avec Duez ? Ah, l'habile garçon ! Ptolémée pensait-il pouvoir communiquer avec son neveu ? Si jamais il en recevait des nouvelles, ou avait moyen de lui en transmettre, qu'il le fît savoir. Ce truchement pourrait être fort précieux. Quant à Marie...
« mais oui, » dit le curateur. Madame de Bouville, qui est personne de tête et fort agissante, a tout arrangé à votre convenance. Soyez sans alarme. »
Il appela son épouse, petite femme maigre, autoritaire, au visage marqué de rides verticales et dont les mains sèches ne restaient jamais en repos. Marie, qui s'était sentie jusque-là en parfaite sécurité, éprouva aussitôt de la crainte et de l'anxiété.
« Ah, c'est vous dont il faut abriter le péché !»
dit Madame de Bouville en l'examinant d'un œil sans bienveillance.
« Vous êtes attendue au couvent des Clarisses. L'abbesse montrait peu d'empressement, et moins encore quand je lui ai dit votre nom, car elle est, par je ne sais quel lien, de votre famille, et votre conduite ne lui plaît guère. Mais enfin, la faveur dont jouit Messire Hugues, mon époux, a pesé son poids. J'ai crié un peu. Le logis vous sera donné. Je vous y conduirai avant la nuit. »
Elle parlait vite, et il n'était pas facile de l'interrompre. Quand elle reprit son souffle, Marie lui répondit avec beaucoup de déférence, mais aussi beaucoup de dignité dans le ton.
« Madame, je ne suis point en état de péché, car j'ai bien été mariée devant Dieu. »«
Allons, allons, » répliqua Madame de Bouville. « Ne faites pas regretter les bontés qu'on a pour vous. Remerciez donc ceux qui s'emploient à vous aider plutôt que de jouer la faraude. »
Ce fut Tholomeille qui remercia, au nom de Marie. Lorsque celle-ci vit le banquier sur le point de partir, un grand désarroi la jeta dans les bras de celui-ci, comme s'il avait été son père.
« Faites-moi savoir le sort de Guccio, » lui murmura-t-elle à l'oreille, « et faites-lui savoir que je me languis de lui. »
Tholomeille s'en alla, et les Bouville disparurent également. Pour tout l'après-midi, Marie demeura dans leur antichambre, n'osant bouger et n'ayant d'autre distraction que d'assister, assise dans l'ébrasement d'une fenêtre ouverte, au départ de Monseigneur de Valois et de son escorte. Le spectacle, pour un moment, la sortit de son chagrin. Elle n'avait jamais vu si beaux chevaux, si beaux harnais, si beaux vêtements, et en si grand nombre. Elle pensait aux paysans de Crécy, vêtus de loques, les jambes entourées de bandes de toile, et se disait qu'il était bien étrange que des êtres qui avaient tous une tête et deux bras, et tous créés par Dieu à son image, puissent être de races si différentes, si l'on en jugeait par le costume. De jeunes écuyers, voyant cette fille de grande beauté occupée à les regarder, lui adressèrent des sourires et même lui envoyèrent des baisers. Soudain, ils s'empressèrent autour d'un personnage tout brodé d'argent qui semblait en imposer fort et prenait des airs de souverain. Puis la troupe s'ébranla et la chaleur de l'après-midi s'appesantit sur les cours et les jardins du palais. Vers la fin du jour, Madame de Bouville vint chercher Marie. Accompagnée de quelques valets et montée sur des mules scellées de bas à la planchette où l'on s'asseyait de côté, les pieds posés sur une petite planche, les deux femmes traversèrent Paris. Elles virent des attroupements un peu partout et même aperçurent la fin d'une rixe qui avait éclaté sur le seuil d'une taverne entre des partisans du comte de Valois et des gens du duc de Bourgogne. Les sergents du guet, à coups de masse, rétablissaient l'ordre.
« La ville est chaude, » dit Madame de Bouville. Je ne serais point surprise si la journée de demain nous amenait l'émeute. »
Par le mont Sainte-Geneviève et la porte Saint-Marcel, elles sortirent de Paris. Le crépuscule tombait sur les faubourgs.
« Du temps que j'étais jeune, » dit Madame de Bouville, « on ne voyait guère ici plus de 20 maisons, mais les gens ne savent plus où se loger en ville et construisent sans cesse sur les champs. »
Le couvent des Clarisses était entouré d'un haut mur blanc qui enfermait les bâtiments, les jardins et les vergers. On distinguait auprès d'une porte basse un tour ménagé dans l'épaisseur de la pierre. Une femme qui marchait le long de la muraille, la tête couverte, s'approcha du tour et y déposa rapidement un paquet entortillé de linge. Puis elle fit tourner le tambour de bois, tira la cloche et, voyant qu'on approchait, s'enfuit en courant.
« Qu'a-t-elle fait ?» demanda Marie.
« Elle vient d'abandonner là un enfant sans père, » répondit Madame de Bouville en regardant Marie d'un air sévère. « C'est ainsi qu'on les recueille. Allons, marchez. »
Marie pressa sa mule. Elle pensa qu'elle aurait pu, elle aussi, être forcée un jour proche de déposer son enfant dans un tour et considéra que son sort était encore bien enviable.
« Je vous fais merci, madame, de prendre si grand soin de moi, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux.
« Ah ! « Enfin, vous prononcez une bonne parole, » répondit Madame de Bouville.